Bonsoir à tous. Après les menaces, est-ce une première riposte iranienne contre Israël? Les gardiens de la révolution iranien saisissent un porte-conteneur naviguant dans le golfe Persique, un navire lié à Israël d'après Téhéran. Un incident dénoncé par l'État hébreu qui met en garde contre les conséquences d'une escalade. L'eau potable rationnée en Colombie en raison d'une grave sécheresse. Les réserves de la capitale Bogota sont critiques et ses 8 millions d'habitants vivent au rythme des coupures d'eau. À moins de 3 mois des élections européennes, la majorité présidentielle inquiète. 16 points séparent désormais leur tête de liste Valérie Hayet de celle du RN Jordan Bardella. Et un troisième candidat pourrait bien venir troubler ce duel. Le gouvernement qui surveille de près également l'engouement autour d'une pétition réclamant le plafonnement des prix des carburants. Plus d'un million de Français l'ont déjà signé en 3 jours. C'est un nouvel incident susceptible d'aggraver un peu plus les tensions au Moyen-Orient. L'Iran a saisi aujourd'hui un navire lié à Israël, un porte-conteneur affrété par l'armateur MSC. Cette opération intervient après les menaces iraniennes à l'encontre d'Israël suite à la frappe sur le consulat iranien de Damas le 1er avril dernier que la République islamique attribue à l'État hébreu. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI en direct de Jérusalem, les forces iraniennes ont donc intercepté ce navire près du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique.
Oui, des commandos de la marine iranienne qui descendent en rappel d'un hélicoptère remontant à l'ère soviétique et qui est utilisé par les gardiens de la révolution iranien pour mener ce genre d'opération. Les images ont été filmées par l'équipage du MSC Aries, un porte-conteneur qui bat pavillon portugais. Alors, un abordage qui a eu lieu en plein détroit d'Ormuz et qui est revendiqué par l'Iran. À l'heure actuelle, indique Téhéran, le cargo est dirigé vers les eaux territoriales iraniennes. Selon l'agence de presse iranienne IRNA, le navire appartient à un millionnaire israélien qui est qualifié de capitaliste sioniste. La Mediterranean Shipping Company qui affrète le navire indique qu'il y a 25 hommes d'équipage à bord, pour la majorité des ressortissants indiens. Et la question, Julie, bien sûr, est de savoir si cet abordage fait partie de la riposte iranienne après l'attaque du consulat iranien à Damas qui est attribué à Israël.
Michel Paul, la diplomatie iranienne en état d'alerte a immédiatement réagi.
Oui, la diplomatie israélienne, avec une réaction très forte du ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, qui affirme que le régime des ayatollahs de Khamenei est un régime criminel qui soutient les crimes du Hamas. Il mène maintenant une opération de piraterie en violation du droit international. Et le ministre israélien appelle l'Union européenne à qualifier sans plus attendre les gardiens de la révolution d'organisation terroriste. Israël exige même d'imposer dès maintenant des sanctions à l'Iran. Alors de son côté, un porte-parole le militaire israélien affirme que l'Iran subira les conséquences s'il choisit d'escalader encore davantage la situation. En Israël, on souligne qu'il n'y a aucun Israélien à bord du porte-conteneur qui bat pavillon portugais, donc, et qui également que les intérêts de l'homme d'affaires israélien Eyal Ofer dans la compagnie Zodiac qui gère ce navire ne sont que partiels. On fait remarquer aussi que ce n'est pas la première fois que l'Iran et ses proxys outils arraisonnent des cargos dans le détroit d'Ormuz.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Et dans ce contexte, la compagnie aérienne néerlandaise KLM annonce qu'elle ne survolera plus Israël et l'Iran. Les Pays-Bas ferment, eux, dès demain, leur ambassade à Téhéran. Tandis qu'en Cisjordanie occupée, la découverte à la mi-journée du corps d'un jeune berger israélien disparu depuis hier déclenche une flambée de violence contre les Palestiniens au nord de Ramallah. Une demi-douzaine de villages sont assiégés par l'armée israélienne et des centaines de colons. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce un crime odieux. 6 personnes ont été tuées ce matin lors d'une attaque au couteau survenue en Australie. Un homme s'en est pris à des passants dans un centre commercial bondé près de Sydney, blessant plusieurs autres personnes, dont un bébé de 9 mois. L'agresseur a été ensuite abattu par une policière. D'après les autorités, la piste terroriste n'est pas écartée à ce stade. Des coupures d'eau, faute de réserves suffisantes. C'est le quotidien des 8 millions d'habitants de Bogota depuis maintenant 3 jours. La sécheresse a poussé les autorités colombiennes à rationner l'eau. Le pays d'Amérique du Sud connaît une forte sécheresse amplifiée cette année par le phénomène El Niño. Les réservoirs du parc naturel de Shingaza, principale source d'eau de la capitale, ont atteint leur niveau le plus bas, Najed Ben Rabah.
Avant que l'eau ne soit coupée, Humberto Suarez fait des réserves. Il s'est organisé pour travailler à la maison. Son quartier fait partie des premiers à avoir subi les coupures d'eau.
Le rationnement débute à 8 heures du matin et se termine le lendemain également à 8 heures du matin, donc 24 heures. Ce qu'on fait, eh bien, on prend nos douches et on fait en sorte que tout soit propre et nettoyé avant 8 heures, comme par exemple la vaisselle. On remplit les citernes aussi pour avoir des réserves d'eau. On a des réservoirs sur le toit qui permettent de recevoir l'eau directement dans nos robinets. Et même si la pression n'est pas suffisante pour déclencher le ballon d'eau chaude, c'est suffisant pour pouvoir utiliser les toilettes.
La ville de Bogota a été divisée en 9 zones. Toutes les 24 heures, une zone différente est privée d'eau. Celui de Luz Stella Rodriguez sera le prochain. Elle a pris les devants et accepte la situation.
C'est évident que c'est nécessaire. Ça fait longtemps qu'ils nous ont prévenus et qu'ils nous disaient qu'on devait nous-mêmes économiser l'eau, sans attendre. Mais on attend justement toujours le dernier moment pour le faire. On attend d'être au pied du mur.
Un bilan sera fait tous les 15 jours pour voir si la mesure doit être reconduite.
Nadjet Ben Rabah, correspondante de France Culture à Bogota. Le Rassemblement National, loin devant la majorité présidentielle, elle-même talonnée par Raphaël Glucksmann et les socialistes, c'est ce qui ressort de la première enquête d'opinion Ipsos pour Radio France et Le Parisien, moins de deux mois avant les élections européennes du 9 juin. La liste RN emmenée par Jordan Bardella caracole en tête avec 32% des intentions de vote. Celle de Valérie Hayer pour les alliés d'Emmanuel Macron est à 16%, trois points seulement devant la liste du PS, Paul Barcelone.
Un gouffre, 16 points, c'est par Jordan Bardella et Valérie Hayer. Pas de commentaire, balaye la direction de Renaissance. À moins de deux mois du scrutin, tout cela ne veut pas dire grand-chose, se perçoit un cadre. Mais la gêne est de plus en plus palpable alors que le camp d'Emmanuel Macron a cru décrocher une victoire politique lors du vote mercredi au Parlement européen du pacte asile et migration. Désormais, le Rassemblement national est jugé par certains comme irrattrapable. Regardant le rétroviseur, l'écart avec Raphaël Glucksmann se réduit à peau de chagrin. 3 points d'avance, une tendance plus qu'une surprise, à tel point que certains électeurs du président, en 2022, ils sont 14%, se disent désormais sûrs et certains d'aller voter pour la liste soutenue par le Parti Socialiste. C'est sur les plates-bandes de l'actuel troisième homme que Valérie Hayer va tenter de marcher, déplacement lundi et mardi, consacré à la transition écologique et au changement climatique.
Rennes, Calais ou encore Montpellier. Les motards ont manifesté un peu partout en France aujourd'hui à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Ils protestent contre le contrôle technique des deux roues rendu obligatoire à partir de lundi prochain. À Paris, 10 000 deux roues ont traversé la capitale d'ouest en est d'après les organisateurs. Eux réclament le plafonnement du prix du carburant à la pompe à 1,50 € le litre. L'association 40 millions d'automobilistes a lancé mercredi dernier une pétition en ligne appelant le gouvernement à réformer la fiscalité du carburant. Pétition qui a récolté plus d'1 million de signatures en 3 jours seulement. Un succès dans un contexte de forte inflation et qui rappelle le mouvement des Gilets jaunes, analyse Christian Lebart, professeur à Sciences Po Rennes. Il répond à Constance Trébel.
Cette pétition, évidemment, elle fait penser un peu au mouvement des Gilets jaunes parce que on a dans le même cas l'émergence d'un mécontentement social et d'un mouvement social à partir de quelque chose qui est, dans les deux cas, le prix du carburant, en particulier du fait des impôts qui pèsent sur celui-ci. Et dans les deux cas, c'est donc un mouvement d'automobilisme. Et évidemment, on est très loin des mouvements sociaux classiques liés au salariat, à la condition salariale. C'est vraiment une entrée par le mode de vie, par les déplacements, et en particulier les conditions de déplacement pour aller au travail.
Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la dépendance qu'on a encore à la voiture ?
Oui, il y a évidemment une hypocrisie assez éclatante sur ce terrain, à voir d'un côté la faiblesse quand même des dispositifs de transport en commun, de transport collectif d'un côté, et puis la surimposition, ou en tout cas l'imposition perçue comme excessive de automobiles, qui, pour les gens qui n'ont pas le choix, apparaît comme vraiment une fiscalité punitive, quoi, hein, là où, au contraire, il faudrait plutôt jouer des incitations. C'est ça qui crée le mécontentement et la mobilisation. C'est l'idée d'automobiliste d'Achalet, quoi. Hein.
Après plusieurs mois de polémique, le pavillon des sources de l'Institut Marie Curie à Paris sera finalement maintenu à son emplacement actuel, annonce cet après-midi du ministère de la Culture. Il sera intégré au nouveau centre de recherche sur le cancer porté par l'Institut Curie. Malgré des températures propices à la baignade cet après-midi, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine alerte face à un risque maximum de formation de baïnes sur l'ensemble des plages de la région. Les envies de baignade seront plus mesurées demain matin avec un ciel nuageux attendu sur le nord, même si les éclaircies résisteront sur le sud. Les températures sont en baisse, 7 à 11 en moyenne au réveil, 12 à 16 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau, Ludovic Auger à la technique.